Chapitre 52. Conrad ferme un œil pour ajuster sa visée et presse la détente. Le coup de feu claque et la tuile ébréchée posée en équilibre à l'autre bout de l'ancien entrepôt de grains explose. La détonation effraie un couple de tourterelles qui s'enfuit dans un grand battement d'ailes. Cavell surgit de la pension comme un diable en brandissant un gourdin. On nous attaque ?
Mein Gott, non, je m'entraîne. Au cas où ces Schweinehunde se pointeraient.
Juché sur un poteau près du menuisier, Pierre apostrophe son frère.
Je te croyais au lit. Tu n'as pas sommeil après ta nuit?
J'étais avec Henri. Il vient juste de s'endormir. Heureusement qu'il a sombré avant d'entendre vos tirs, sinon il aurait été bon pour une nouvelle frousse.
Conrad marche jusqu'au fond de l'entrepôt. D'un revers de main, il dégage les débris restés sur la vieille étagère et dispose une nouvelle tuile. Il revient et tend son arme à Pierre.
À ton tour. Méfie-toi, il a tendance à tirer un peu en dessous.
Pierre saute de son perchoir et se met en position, bien campé sur ses jambes. Mais il a beau s'appliquer, ses mains tremblent quand même. Ce n'est pourtant pas la poigne qui lui fait défaut. Lorsque le coup part, la surprise le fait sursauter, et la balle manque sa cible pour aller se ficher dans une poutre en éclatant le bois.
« Pas trop mal, » commente l'Allemand. « Mais tu dois garder ta maîtrise. Tu n'as pas à avoir peur de ton propre revolver. Au moment où tu décides de t'en servir, c'est ton meilleur ami et il peut te sauver la vie. »
« Plus facile à dire qu'à faire, Conrad. Je n'ai pas l'habitude. » Le menuisier se gratte la barbe.
« Au train où vont les choses, il faudra l'apprendre. »
« Ouais. » En attendant, je vais te regarder encore un peu.
Pierre lui rend le revolver et se tourne vers son frère.
Alors tu étais finalement capable de l'ouvrir, ce passage?
Je n'ai réussi que grâce à Henri et au hasard.
Minguier a dû faire une drôle de tête lorsqu'il est revenu. Il ne devait pas s'attendre à trouver votre prison vide.
Les deux frères ricanent.
Je parie qu'il était très énervé, s'exclame Vincent. D'autant qu'il n'a aucun moyen de savoir comment nous sommes sortis. À moins de s'enfermer à l'intérieur, ce qu'il n'a aucune raison de faire, il ne trouvera jamais le moyen de déclencher le mécanisme.
Pour lui, vous vous êtes envolé. Il va croire à un tour de magie.
Je me demande surtout comment il va réagir.
En lançant ses tueurs à tes trousses, c'est certain, il doit être furieux.
Imaginer Minguier en colère ne déplaît pas à Vincent. Mais ce que cela risque de provoquer l'inquiète. Il finira par venir ici.
Conrad tire à nouveau. La tuile est pulvérisée.
Qu'il vienne, lance-t-il résolu. On le recevra comme il le mérite.
Pierre s'étonne. Il s'attendait sérieusement à trouver le trésor de l'alchimiste Nicolas Flamel?
Il en était convaincu. Rien qu'en l'évoquant, son regard brillait de convoitise.
Il va te soupçonner de l'avoir emporté.
Je m'en fiche.
Conrad s'approche et tend son arme à Vincent.
Veux-tu essayer? Cela pourrait devenir utile.
Une autre fois. Pour le moment, je dois absolument sortir. Je sais ce que vous allez dire.
Mais me risquer à l'extérieur n'est pas moins prudent que de poireauter ici en attendant qu'il nous tombe dessus.
Vous autres, restez à l'abri et soyez vigilants. Il y a de bonnes chances pour que notre ami italien et toi, Conrad, soyez considérés comme déjà morts. Profitez-en pour boire un verre et vous détendre. Ce n'est pas tous les jours que la mort paye son coût.
Chapitre 53.
Pour sortir, Cavell a troqué ses vêtements noirs d'artisan, veste et pantalon de toile de coton, pour une tenue plus ordinaire qui lui permettra de se fondre dans la foule. Pantalon gris, chemise blanche, gilet et long manteau ample. Afin de ne pas attirer l'attention, il s'est même résigné à porter un vieux chapeau melon qui traînait dans une armoire de la pension. Dès les premiers instants, le couvre-chef l'a démangé. Par manque de pratique, il oublie d'abord de le retirer en se présentant à l'annexe de la préfecture de Paris qui abrite les services de la police spéciale. Saluant le planton, il demande « Je souhaite voir l'inspecteur Clément Berthelot. »
« Vous avez rendez-vous ? »
« Non, mais je le connais personnellement. »
Et c'est important, je m'appelle Vincent Cavell.
L'homme note le nom sur une fiche, puis désigne un banc dans le hall. Patientez là-bas, je vais le faire prévenir. L'entrée du bâtiment est une véritable fourmilière, un balai incessant d'hommes qui vont et viennent entre les escaliers et les différentes portes des services. Bien que tous soient habillés en civil, Vincent parvient à distinguer les agents des simples visiteurs. Ils ont en commun une attitude un peu guindée et un regard aussi acéré que furtif. Nombreux sont ceux qui le dévisagent en passant. Certains escortent des individus menottés. Clément finit par descendre d'un escalier pour le rejoindre. « Quel bon vent t'amène, mon vieux? C'est un bon vent, au moins. Disons une bourrasque, il faut que je te parle. On est un peu sur les charbons ardents entre les espions et les groupuscules qui profitent de l'exposition pour s'en donner à cœur joie. Si tu pouvais, je ne te demande que quelques minutes, c'est sérieux. » Le ton et la mine de Vincent convainquent immédiatement le policier. « Suis-moi dans mon bureau. » L'inspecteur Berthelot entraîne son ami d'enfance dans un labyrinthe d'escaliers et de corridors capable d'abuser le meilleur des sens de l'orientation. Étages et services s'enchevêtrent dans une activité fébrile. Partout, les hommes se pressent, dossiers en main, échangeant ou s'interpellant d'un niveau à l'autre. « Vous avez l'air débordé. » L'inspecteur opine du chef. « À croire que tous les tordus de la Terre se sont donné rendez-vous à Paris. Ils profitent de l'exposition pour redoubler d'activité. » Entre les attentats à déjouer, les officiels qui nous sollicitent pour rien et les illuminés prêts à tout pour faire parler d'eux, on ne dort plus. Mardi, on a même eu deux vols d'un nouveau genre dans la même journée. Tiens-toi bien, un dans les coffres privés d'une succursale de la Banque de France et quelques heures plus tard, même type d'opération dans les fonds d'archives d'une paroisse. Ils ont barboté des registres alors qu'ils ont laissé des manuscrits enluminés de grande valeur. C'est à n'y rien comprendre. Il lance un coup d'œil interrogatif à Vincent et ajoute « Tu n'as pas l'air toi-même très en forme. C'est la première fois que tu me rends visite ici. » Il le fallait. Arrivé au troisième étage, Berthelot lui désigne une porte entrouverte. « Entre, je t'en prie. » Le bureau est exigu, encombré de dossiers empilés dans lesquels il est difficile de ne pas buter. Au mur sont affichées des listes et des cartes annotées de certains quartiers de la capitale. « Assieds-toi. » Et raconte-moi ce qui t'amène. » Vincent annonce sans détour. « Un homme a essayé de me tuer, moi et le gamin dont je m'occupe. » « Bigre, une tentative d'assassinat. As-tu alerté la police ? » ?»« Le cas est aussi spécial que l'est le voyou. J'ai préféré m'adresser à toi. Il nous a séquestrés et menacés. Il était résolu à nous tuer, mais nous avons réussi à nous échapper. Je ne sais pas ce qu'il trafique, mais je te parie qu'il grenouille dans des cercles occultes. » Le policier hoche la tête. Il en sort de partout, à croire que c'est la mode. Il m'a parlé d'un nouveau pouvoir capable de faire tomber les instances politiques. Je me suis dit que cela pouvait relever de tes services. Un anarchiste? Je ne sais pas. Il n'a pourtant rien d'un révolutionnaire fauché. C'est un industriel, et riche avec ça. Il possède un très bel hôtel particulier, avenue Malakoff. Il tient même une représentation à l'exposition universelle. Il se nomme Alfred Minguier. Clément note le nom sur une fiche. Soudain, il s'interrompt, les sourcils froncés. « Minguier, dis-tu ? » « C'est ça. Un instant, s'il te plaît. » Clément se lève. « Jaubert ! » appelle-t-il. Une voix lointaine répond. « Oui, patron ? Apporte-moi le registre des activités. Tout de suite !» Berthelot revient et s'assoit à son bureau en précisant « J'ai l'impression d'avoir vu passer ce nom. Vous le surveillez ?»« Pas à ma connaissance, mais ça me dit quelque chose dans les derniers signalements. » Un homme entre sans frapper, salue rapidement Vincent et tente un volume relié à son supérieur. « Merci, Jaubert. » L'inspecteur Berthelot feuillette quelques pages, puis resserre sa recherche en parcourant du doigt la liste des dernières affaires. Il finit par s'arrêter sur un paragraphe. Minguier, il me semblait bien. Alfred de son prénom, homme d'affaires, fabricant de chaînes à maillons soudés pour divers usages terrestres et maritimes, résident de fait dans les beaux quartiers. C'est lui. Berthelot fait une moue dubitative. On ne va pas pouvoir l'interroger, et encore moins l'appréhender. Il est protégé politiquement ? Mieux que ça, on l'a retrouvé mort ce matin à son domicile. Cavel encaisse la nouvelle, puis ouvre de grands yeux. « Vous êtes averti de tous les décès ?»« Certes pas, mais je lis ici que son majordome a appelé la police en affirmant que son employeur avait été assassiné par des hommes masqués
qui l'avait forcé à boire du poison. S'agissant effectivement d'une personnalité en vue, c'est nous qui avons hérité du dossier. Vincent n'en revient pas. Minguier, empoisonné. Redmore, quoi qu'il ait pu te faire, il ne pourra pas en répondre. Incrédule, Vincent se laisse aller en arrière dans sa chaise. La vie est étrange tout de même. Tout portait à croire que j'allais jouer le rôle du Maccabée et lui, celui du survivant. En quelques heures, les rôles se sont inversés. Vous allez enquêter ? Ce n'est pas prévu. Nous manquons d'effectifs. De plus, il est écrit dans les commentaires de la note qu'à part les propos d'ailleurs incohérents de son employé de maison, rien n'est suspect dans cette affaire. Ton bonhomme a sans doute succombé à une cause naturelle. Ça, je ne crois pas. À quand remonte votre dernière entrevue ? Hier soir.
Fichtre ! La justice divine est bien plus rapide que celle des hommes.
Clément s'amuse de sa plaisanterie. Vincent se dit que c'est sans doute à force d'être confronté aux pires faits divers qu'il prend sa mésaventure avec autant de légèreté. Cher Vincent, ajoute l'inspecteur en se levant, il me faut maintenant retourner à d'autres dossiers. Salut Pierre pour moi. Essayons de boire un pot ensemble, un de ces jours. Il y a d'excellents établissements qui ouvrent.
Pourquoi pas ?
Vincent a répondu machinalement. Il réfléchit déjà à ce qu'implique l'élimination brutale d'Alfred Minguier. Cela ne va pas clarifier la situation. Bien au contraire. Chapitre 54. Posté en embuscade à l'une des fenêtres du premier étage, Eustasio fait signe à Conrad et Vincent de le rejoindre discrètement. En prenant bien soin de rester à couvert, il désigne la rue en contrebas.
Venez voir.
Il montre un individu sur le trottoir d'en face en habit de cocher.
Je l'ai remarqué hier matin. Depuis, il n'a pas bougé. Même cette nuit, il était là. Je suis certain qu'il nous surveille.
Conrad bougonne. D'ici, je n'arrive pas à reconnaître son visage, mais il est habillé exactement comme celui qui m'a bousculé.
Ils sont plusieurs à porter cette tenue, précise Vincent. Il est en principe là pour nous protéger. Il tombe très bien. J'ai deux mots à lui dire.
Tu vas sortir par devant ? S'étonne Eustasio. Ce ne sera pas long. Ne vous montrez pas, Conrad, s'il te plaît. Couvre mes arrières avec ton arme, au cas où je ferai erreur sur la personne. Vincent enfile sa tenue passe-partout et sort de la maison. Se faufilant entre un tombereau de sacs de charbon et une charrette chargée de tonnelets, il traverse la rue en petite foulée et avance droit sur le cocher qui semble gêné de cette approche directe.
« Excusez-moi, lance Vincent, je suppose que vous savez qui je suis. »
L'homme baisse le visage à l'abri de son chapeau et se détourne, refusant d'engager la conversation. Cavell attend que les badauds soient passés pour lui glisser tout en faisant mine de regarder ailleurs.
« Si vous travaillez avec Charles, allez vite lui dire qu'il faut que nous parlions, c'est urgent. Il s'est passé des choses importantes cette nuit. »
L'homme relève alors les yeux. Il fixe Vincent avec insistance, comme s'il s'efforçait d'évaluer sa sincérité.
« C'est très urgent, » insiste Vincent. « Je risque ma peau rien qu'en sortant vous voir. »
Le cocher ne prononce pas un mot, mais lève aussitôt le bras en agitant la main pour faire signe. Vincent regarde autour de lui.
« Qui diable prévenez-vous ? »
L'homme ne prononce toujours pas une parole.
« Je vous préviens, » souffle Vincent. « J'ai un ami armé qui vous tient en joue. »
Le cocher ne bronche pas. Un fiacre arrive rapidement et s'arrête à leur hauteur. Le conducteur de l'attelage l'invite à monter. Cavell recule avec un geste de refus.
« Doucement, l'ami. Je ne vais nulle part sans savoir avec qui et pourquoi. »
Le profil de Charles émerge furtivement à la fenêtre de la voiture.
« Dépêchez-vous si vous ne voulez pas finir comme Alfred Minguier. »
Chapitre 55. Dans la circulation dense de ce début de journée, le fiacre file au rythme cadencé du trot du cheval. À peine assis sur la banquette, Vincent interroge Addison.
« Est-ce vous qui avez fait exécuter Minguier ?»
Charles, que cette question désole, nie farouchement.
« Bien sûr que non. Nous connaissons-nous si peu que vous puissiez nous prendre pour des assassins.
Alors comment avez-vous appris sa mort ?»
Il n'y a pas que vous qui ayez vos entrées dans la police.
Vous savez donc qu'il n'y aura pas d'enquête. Son majordome a beau clamer qu'il a été empoisonné, la police s'en moque. En l'occurrence, cela nous arrange. Moins il y aura de gens pour s'intéresser à cette affaire, plus nous serons tranquilles. Par contre, les jours du témoin sont certainement comptés. Vincent voit défiler les rues par la vitre de la portière. Nous ne nous rendons pas à la chapelle souterraine? Étant donné la tournure que prennent les événements, elle n'est plus assez sûre. Nous allons chez moi, mais vous ne serez pas complètement dépaysé.
Cavell ne relève pas. Il aspire à des éclaircissements sur un sujet autrement plus brûlant.
Cette nuit, Henri et moi avons failli mourir. Vos cochers n'étaient-ils pas supposés garantir notre sauvegarde?
Nous nous préparions à intervenir rue de Montmorency lorsque nous avons été informés que la maison était vide et que vous étiez rentré chez vous.
Vincent s'étrangle. Vous vous prépariez à intervenir? À quelle heure comptiez-vous débarquer?
Pendant que vous preniez votre temps, Minguier et ses sbires avaient tout le loisir de nous trucider.
Envoyer des hommes trop tôt aurait provoqué un affrontement prématuré alors que nous ne savions pas ce que vous faisiez.
Nous avons eu beaucoup de chance de nous en sortir, fait remarquer Vincent sur un ton accusateur.
Pourquoi vous ont-ils relâché?
Ils n'en ont rien fait. Henri et moi avons réussi à nous enfuir par le passage dérobé alors qu'ils nous avaient enfermés.
Addison s'avance tout à coup très intéressé.
Vous avez donc réussi à ouvrir le mur?
Oui, cher monsieur, et c'était absolument fabuleux.
Une lueur de malice dans le regard, Charles demande « Vous allez me raconter ?»
Vincent hoche la tête positivement et ajoute « Je suis sûr que vous et votre ami Robert Houdin auriez apprécié. »
Le fiacre ralentit. Il tourne pour s'engager sous une haute porte cochère dont on vient d'écarter les immenses battants. L'attelage s'introduit dans une vaste cour intérieure où résonne le martèlement des sabots. Une fois qu'il s'est immobilisé, un cocher ouvre la portière. Arrivé au bas du marchepied, Vincent marque un temps.
Ces bâtiments lui rappellent quelque chose, mais c'est surtout le perron monumental qui fait tout à coup remonter en lui des souvenirs oubliés. Il est déjà venu ici. Il reconnaît l'endroit. Il était bien plus jeune alors et la cour n'était pas encombrée de fiacres comme c'est le cas aujourd'hui.
À mesure que la mémoire lui revient, monte en lui une puissante émotion.
En le voyant bouche bée, Addison sourit et l'invite à le suivre.